du journal de Laurence Thomas. Bonjour Laurence.
Bonjour à tous. Elle est partout, dans nos frites, nos chips, nos gâteaux. L'huile de tournesol, elle se fait rare en ce moment en raison de la guerre en Ukraine. Pas de pénurie en France, mais des tensions d'approvisionnement. Alors des agriculteurs français réorientent leur production pour semer du tournesol. Des milliers d'Ukrainiens détenus ou kidnappés dans le Donbass par les forces russes. Un père de famille ukrainien remue ciel et terre pour retrouver son fils de 16 ans qui a été enlevé. La Croix-Rouge a décidé de vendre 6 de ses centres de santé franciliens au groupe australien Ramsay. Inquiétude du personnel. Et puis football, le Paris Saint-Germain, sans doute dès ce soir, champion de France.
Les invités de la matinale. Dans 20 minutes, Karine Bécard, vous recevrez Paolo Moretti, le délégué général de la quinzaine des réalisateurs du Festival de Cannes. Et puis à 8h20, on va tourner les yeux vers les planètes. Mars, Uranus et les autres. Quels sont les nouveaux enjeux de la recherche spatiale? Eh bien, on va en parler ce matin avec le planétologue François Forget.
France Inter. C'est l'une des conséquences de la guerre en Ukraine, le risque de pénurie d'huile de tournesol. L'approvisionnement mondial est désormais insuffisant à cause de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Les deux grands pays producteurs d'huile de tournesol, les cours ont flambé. Du coup, les agriculteurs français voient l'opportunité de réorienter leur production pour semer du tournesol. Mais le pari est risqué, explique Antoine Grosjean. Il est exploitant agricole à Villers-Saint-Étienne, près de Toul. Il a décidé de semer 25 hectares de tournesol cette année. Mohan Chibani l'a rencontré dans son exploitation.
En plus du blé, de l'orge, du soja et du maïs qu'il produit déjà, Antoine s'est lancé ce printemps dans la culture de tournesol. Mais ce n'est pas par opportunité par rapport à la guerre en Ukraine. C'est tout simplement parce que le prix des engrais a été multiplié par 4. Or, les tournesols ne demandent pas beaucoup d'engrais.
Le tournesol, c'est une très bonne culture parce qu'il n'y a pas beaucoup d'intrants. Les anciens disaient que c'était une culture de feignants parce qu'il n'y a pas grand-chose à faire sur le tournesol. On met 60 unités d'azote, un herbicide et puis c'est fini.
Pour autant, la tonne de tournesol est passée de 350 à 1000 euros ces derniers jours. Antoine Grosjean pourrait donc faire une belle affaire si les prix se maintiennent à ce niveau-là. Mais rien n'est moins sûr.
Alors ce qu'il faut savoir, c'est que si les conditions sont séchantes, on n'aura pas besoin de sécher le tournesol, hein, parce qu'il faut un nombre de degrés jour. Si on a une année humide comme l'année dernière, on sera obligé de sécher. Et pour sécher, il faut du gaz. Donc on ne sait pas, si demain on livre à la coopérative, vous me disiez vous allez gagner de l'argent, vous allez gagner de l'argent, on ne sait pas. Hein. Déjà, le tournesol n'est pas encore dans la benne. Hein. Et on aura aussi ces frais de séchage qui vont rentrer en ligne de compte, et c'est la coopérative ou le privé qui va nous les facturer. Donc je vous dirai à la fin du match le score. Voilà.
Aujourd'hui, la France produit 500 000 tonnes d'huile de tournesol par an pour une consommation globale de 800 000 tonnes.
Mohan Chibani, les appels à la trêve en Ukraine à l'occasion de la Pâque orthodoxe ce week-end semble rester lettre morte, notamment à Mariupol, où il y aurait encore dans la ville 100 000 habitants selon le maire, mais quitter les lieux est tout simplement devenu impossible. Après 2 mois de guerre, l'un des objectifs de l'armée russe est d'établir un contrôle total sur le Donbass et le sud de l'Ukraine, a redit hier un haut responsable militaire russe. Et puis, c'est l'une des facettes de l'occupation russe. On estime que plusieurs milliers de personnes sont actuellement détenues, kidnappées, en dehors de tout cadre légal. Ce sont principalement des militants politiques, pro-ukrainiens, des journalistes, mais aussi des entrepreneurs et toutes sortes de personnes dont les soldats russes peuvent espérer obtenir de l'argent ou du pouvoir. À Zaporijja, tout près de ces zones occupées, Laurent Macchietti et Camille Magnard ont rencontré un responsable des autorités ukrainiennes locales, rattrapé lui aussi par ce fléau.
Oleg Bouriak a 46 ans et dirige l'administration du district de Zaporijja. Mais ces derniers jours, il n'a qu'une seule préoccupation en tête, faire libérer son fils, Vlad, 16 ans, enlevé début avril alors qu'il fuyait la ville de Mélitopol en zone occupée.
Mon fils est resté 42 jours dans la ville contrôlée par les soldats russes. Il avait pris la décision de ne pas partir parce que son grand-père était en phase terminale de cancer. Le grand-père est mort à 5h45 ce matin-là et mon fils a quitté la ville à 8h.
Ce 8 avril, Vlad circulait dans un convoi d'évacuation de civils. Mais au dernier checkpoint russe, avant la zone libre, les soldats ont vérifié les identités. Ils ont laissé repartir tout le monde, sauf le garçon. Depuis, Vlad est détenu par un geôlier russe dans un lieu tenu secret.
Tout ce que je sais, c'est qu'il est en vie et qu'hier, il a pu parler au téléphone avec sa mère pour la première fois. On essaie de le soutenir psychologiquement. On lui dit qu'on s'occupe de le sortir de là, que les négociations sont difficiles, mais qu'on ne l'abandonne pas.
Comme les négociations n'avancent pas, Oleg a décidé de rendre l'affaire publique pour attirer l'attention sur le sort de son fils et sur celui de ces milliers d'Ukrainiens, des enfants, trop souvent, qui ont été enlevés en zone d'occupation russe depuis le début de la guerre.
Camille Magnard. La Russie qui, pour la première fois, révèle que le naufrage la semaine dernière du Moskva, son vaisseau amiral, a fait un mort et 27 disparus. Un pas de plus vers la privatisation de la santé. En tout cas, la question est posée car la Croix-Rouge va céder ses 6 centres de santé franciliens à un opérateur privé, le groupe australien Ramsay Santé, seul repreneur en lice. Les négociations sont toujours en cours, mais la vente devrait être effective au 1er juillet. C'est un coup dur pour les salariés engagés à défendre une médecine pour tous, Julie Drouin.
La Croix-Rouge justifie cette cession par un fort déficit cumulé sur ces établissements, un argument qui ne tient pas, selon le docteur Éric May, vice-président de l'Union syndicale des centres de santé.
L'argument économique ne suffit pas. Aujourd'hui, la Croix-Rouge avait les moyens, avait les outils pour arriver à un modèle médico-économique stable et équilibré. C'est une question de volonté politique de la part de ses dirigeants.
Un changement de stratégie difficilement acceptable pour les salariés attachés aux valeurs de la Croix-Rouge. Lucie fait partie des élus CSE.
Ça a été un choc de voir que la Croix-Rouge souhaitait nous céder à un privé lucratif qui ne connaît strictement rien au niveau des soins dits primaires. On pense que Ramsay va investir. Donc s'ils augmentent les salaires, quel type de personnel vont-ils recruter aussi? Est-ce qu'ils vont obliger les praticiens à faire le tri dans les patients, ceux qui rapportent et ceux qui rapportent moins?
Si le groupe australien dément toute intention de créer un réseau de santé, les 6 centres de la Croix-Rouge se trouvent tous à moins de 15 minutes d'une clinique Ramsay. Difficile de ne pas y voir de lien, explique Laura Alès, économiste de la santé.
Ça semble pas en fait être un hasard, mais vraiment répondre à une stratégie du groupe. Ramsay va pouvoir du coup utiliser ses centres de santé pour capter la patientèle et l'orienter vers les établissements hospitaliers du groupe.
Chaque année, plus de 60 000 personnes bénéficient de soins dans ces centres Croix-Rouge.
Julie Drouin, c'est un des grands chantiers des futurs JO de Paris 2024, dépolluer l'eau de la Marne, car de la qualité de son eau dépend celle de la Seine, où pourraient se tenir plusieurs épreuves olympiques, sauf que la Marne est polluée par les eaux usées. D'où ces gros travaux dans le Val-de-Marne depuis maintenant septembre 2020, avec la construction d'une station de dépollution des eaux de pluie. Une première canalisation est terminée. La construction de la deuxième va commencer début mai. Louis Fontaine, vous étiez sur le chantier à Champigny-sur-Marne.
C'est une nouvelle étape importante qui se joue ici pour dépolluer la Marne. Eve Carleskind, directrice des services environnement et assainissement pour le conseil départemental.
C'est un ouvrage qui permet de nettoyer les eaux pluviales avant leur rejet au milieu naturel en Marne. Donc elle a un bienfait pour les ouvertures de baignades pérennes en Val-de-Marne, en aval, et pour les épreuves des JO Olympiques, bien sûr.
Cet effet Jeux Olympiques, d'ailleurs, a permis de donner un vrai coup d'accélérateur.
Ça fait plus de 40 ans qu'on travaille à l'amélioration de la qualité de l'eau de la Seine et de la Marne par tous les efforts qu'on fait en investissement et en fonctionnement sur les réseaux d'assainissement afin qu'il y ait moins de rejets polluants en Seine et en Marne.
Sur le terrain, les travaux avancent bien, malgré la pandémie et quelques crues. Pour Louis Détinténiac, le responsable du projet, il ne manquait pas grand-chose pour retrouver une eau correcte.
Aujourd'hui, non, la Marne a quand même un bon état sanitaire et écologique. Après, il faut savoir que pour avoir des qualités d'eau dites baignades, eh ben, il faut aller plus loin en termes de bactériologie et tout ça. Mais ça ne veut pas dire que le cours d'eau est déjà en mauvais état.
Le conseil départemental du Val-de-Marne va boucler dans moins de 2 ans maintenant son plus grand projet environnemental. Les élus appellent maintenant riverains et habitants à jouer le jeu pour enfin profiter de la Marne à l'été 2024.
Louis Fontaine.
Le PSG, on va parler de football. Le PSG qui est en route vers le titre de champion de France de Ligue 1.
À 5 journées de la fin du championnat, il manque un point aux Parisiens pour être sacré pour la 10e fois. Une victoire ou un match nul au Parc des Princes ce soir face à Lens permettra à Paris de valider officiellement ce nouveau sacre national. Mais pour les supporters, Nicolas Perronnet, ce titre aura une saveur toute relative au terme d'une saison marquée par une nouvelle déconvenue en Ligue des Champions.
La pire crainte des dirigeants en cas de titre ce soir, c'est de revivre ça, une habitude depuis plus d'un mois maintenant. Les sifflets du Parc des Princes, un soir de fête, ou guère mieux de l'indifférence qui descend des tribunes. La rupture avec les supporters est profonde et l'entraîneur du PSG, Mauricio Pochettino, un peu inquiet.
Il ne faut pas sous-estimer la valeur d'un championnat. On espère que les supporters célébreront le titre et qu'ils mettront la situation entre parenthèses.
Un appel à l'unité, car si ce titre sera l'unique de la saison pour les Parisiens, ce sera aussi celui de la décima, le 10e de l'histoire du club. Seul Saint-Étienne fait aussi bien dans le football français. Mais sans Ligue des Champions, le cœur n'y est pas. Ça ne suffit plus pour certains ultras comme Anthony, qui restera silencieux.
Ils nous donnent pas ce qu'on leur donne en tribune. Donc, moi, je prêterai pas le titre contre Lens parce que c'est la Ligue des Champions maintenant qu'il nous faut. Chaque année, c'est pareil. Le titre, voilà, on va l'avoir encore pendant 5 ans. Et ouais, je pense que ça va être une ambiance froide, très froide. Et je pense que les joueurs vont le ressentir. Et ce ne sera pas comme les années précédentes.
Aucune festivité n'est prévue ce soir au Parc des Princes si le PSG est champion de France. Le trophée sera remis à la fin de la saison.
Nicolas Perronnet
et Laurence Thomas pour le journal Le Temps.